Chapitre 19. Les communes et le tiers-état. L'histoire des Mérovingiens est celle des barbares envahissant la Gaule et s'y établissant sur les ruines de l'Empire romain. L'histoire des Carlovingiens est celle du plus grand des barbares, entreprenant de ressusciter l'Empire romain, et les descendants de Charlemagne se disputant les débris de son œuvre aussi fragile que grande. Au sein de ce vaste chaos et sur cette double ruine, s'est formée la société féodale qui, de transformation en transformation, est devenue la France. Un de ses chefs, Hugues Capet, s'est fait son roi. Les Capétiens ont fait la royauté française. Je vous ai retracé son caractère et son développement progressif du XIe au XIVe siècle, à travers les règnes de Louis le Gros, de Philippe Auguste, de Saint-Louis et de Philippe le Bel, princes très divers et très inégaux en mérite et en influence, mais tous actifs et habiles. Cette époque est aussi le berceau de la nation française. C'est alors qu'elle a commencé à se manifester dans ses divers éléments et à surgir sous le régime monarchique du sein de la société féodale. Ce sont ses premiers traits et ses premiers efforts dans l'œuvre si longue et si laborieuse de son développement que j'ai maintenant à cœur de vous mettre sous les yeux. Les deux mots que j'inscris en tête de ce chapitre, les communes et le tiers-état, expriment les deux grands faits où se révèle à cette époque le travail de formation de la nation française. Intimement unis l'un à l'autre et tendant au même but, ces deux faits sont cependant très divers, et même quand on ne les a pas confondus, on ne les a pas assez nettement distingués et caractérisés chacun à part. Ils sont divers et quant à leur date chronologique et quant à leur importance sociale. Les communes apparaissent les premières dans l'histoire. Elles y apparaissent comme des faits locaux isolés les uns des autres, souvent très différents dans leur origine, quoique analogues dans leur but, et en tout cas ne prenant et ne prétendant à prendre aucune place dans le gouvernement de l'État. Les intérêts et les droits locaux, les affaires particulières de certaines populations agglomérées sur certains points du territoire, c'est là l'unique objet, l'unique domaine des communes. C'est sous ce caractère purement municipal et individuel qu'elles naissent, s'établissent et se développent du XIe au XIVe siècle. Au bout de deux siècles, elles entrent dans leur déclin. Elles tiennent bien moins de place et font bien moins de bruit dans l'histoire. C'est précisément alors que le tiers-état se manifeste et s'élève comme un fait général, un élément national, un pouvoir politique. Il est le successeur, non le contemporain des communes. Elles ont beaucoup contribué, mais n'ont pas suffi à sa formation. Il a puisé à d'autres sources, il s'est développé sous d'autres influences que celles qui ont donné naissance aux communes. Il a persisté, il a grandi dans tout le cours de notre histoire, et au bout de cinq siècles, en 1789, quand les communes étaient depuis longtemps tombées dans la langueur et l'insignifiance politique, au moment où la France élisait l'Assemblée constituante, un homme d'un esprit plus puissant que juste, l'abbé Sieyès, a pu dire « Qu'est-ce que le tiers-état ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À être quelque chose. » Il y avait dans ces paroles trois erreurs graves. Dans le cours du régime antérieur à 1789, bien loin que le tiers-état ne fût rien, il était devenu chaque jour plus grand et plus fort. Ce que demandait pour lui en 1789 M. Sieyès et ses amis, ce n'était pas qu'il devint quelque chose, mais qu'il fût tout. C'était vouloir au-delà de son droit et de sa force. La révolution qui a été sa victoire l'a elle-même prouvé. Quelles qu'aient été les faiblesses et les fautes de ses adversaires, le tiers-état a eu terriblement à lutter pour les vaincre, et la lutte a été si violente et si obstinée que le tiers-état s'y est décomposé et a payé très cher son triomphe. Il y a trouvé d'abord le despotisme au lieu de la liberté, et quand la liberté est revenue, le tiers-état s'est vu en présence d'une double hostilité, celle de ses adversaires de l'Ancien Régime et celle de la démocratie absolue, qui à son tour a prétendu être tout. Les prétentions excessives amènent les résistances intraitables et soulèvent les ambitions effrénées. Ce qu'il y avait dans les paroles de l'abbé Sieyès en 1789, ce n'était pas la vérité de l'histoire, c'était un programme mensonger de révolution. Je devance les temps pour bien caractériser et expliquer les faits à mesure qu'ils se présentent, en faisant entrevoir leur portée et leur avenir. Maintenant que j'ai bien nettement marqué la différence profonde entre le tiers-État et les communes, je reviens aux communes seules, les premières dans l'ordre des temps. Je retracerai les origines et la composition du tiers-État quand j'arriverai à l'époque où il devient l'un des grands acteurs de l'histoire de France par la place qu'il prend et le rôle qu'il joue dans les États généraux du royaume. En traitant de la formation des communes du XIe au XIVe siècle, la plupart de nos historiens, même le plus original et le plus clairvoyant de tous, M. Augustin Thierry, qualifie souvent cet événement du nom de « révolution communale ». Je ne trouve pas que cette expression donne une idée parfaitement juste du fait auquel elle s'applique. Le mot « révolution », dans le sens, ou du moins dans la physionomie que lui ont donné parmi nous les événements contemporains, indique le renversement d'un certain régime, des idées et de l'autorité qui y présidaient, et de l'élévation systématique, à leur place, d'un régime essentiellement différent, en principe et en fait. Les révolutions de nos jours substituent ou veulent substituer la République à la monarchie, la démocratie à l'aristocratie, la liberté politique au pouvoir absolu. Les luttes qui, du XIe au XIVe siècle, ont donné naissance à tant de communes, n'avaient pas un caractère si profond. Les populations ne prétendaient pas renverser radicalement le régime qu'elles attaquaient. Elles conspiraient, elles conjuraient, comme disent les documents du temps. Elle se soulevait pour se soustraire à l'oppression et aux misères excessives qu'elle subissait, non pour abolir la souveraineté féodale et pour changer le personnel de leur seigneur. Quand elles réussissaient, elles obtenaient ces traités de paix qu'on appelait des chartes et qui apportaient, dans la condition des insurgés, des changements salutaires accompagnés de certaines garanties plus ou moins efficaces. Quand elles échouaient ou quand les chartes étaient violées, il en résultait des réactions violentes, des excès mutuels. Les relations des populations avec leurs seigneurs étaient orageuses et pleines de vicissitudes. Mais au fond, ni le régime politique, ni le système social des communes n'étaient changés. C'était là, sur un grand nombre de points sans lien entre eux, des révoltes, des guerres civiles locales, non une révolution communale. L'un des premiers faits de ce genre, signalé avec quelques détails dans l'histoire, en révèle clairement le caractère primitif. Fait d'autant plus remarquable que la révolte retracée par les chroniqueurs naît et se passe dans les campagnes, parmi les paysans, pour rentrer dans une complète indépendance, non dans une population urbaine et pour aboutir à l'érection d'une commune. Vers la fin du Xe siècle, sous le duc de Normandie Richard II dit le Bon, et pendant que le bon roi Robert régnait en France, dans plusieurs comtés de la Normandie, dit Guillaume de Jumièges, tous les paysans, se réunissant dans des conventicules, résolurent de vivre selon leur volonté et leurs propres lois, aussi bien dans l'intérieur des forêts que le long des rivières, et sans se soucier d'aucun droit établi. Pour accomplir ce dessein, ces agglomérations furieuses élurent chacune deux députés qui devaient former au milieu des terres une assemblée chargée de faire exécuter leurs décrets. Dès que le duc Richard II en fut informé, il envoya une grande troupe d'hommes de guerre pour réprimer cette audace des campagnes et dissiper cette assemblée rustique. En exécution de ses ordres, les députés des paysans et beaucoup d'autres rebelles furent aussitôt arrêtés. On leur coupa les pieds et les mains et on les renvoya ainsi mutilés chez eux pour détourner leurs pareils de telles entreprises et les rendre plus prudents, crainte de pire. Après cette expérience, les paysans cessèrent leur réunion et retournèrent à leur charrue. C'était environ 80 ans après l'événement que le moine Guillaume de Jumièges racontait cette insurrection de paysans si antérieure et si semblable à celle qui, plus de 3 siècles après, éclata dans presque toute la France septentrionale et qu'on nomma la Jacquerie. Moins d'un siècle après Guillaume de Jumièges, un poète normand, Robert Wass, racontait le même fait dans son roman de Roux, histoire en vers de Roland et des premiers ducs de Normandie. Les seigneurs ne nous font que du mal, fait-il dire aux paysans normands. Avec eux, nous n'avons ni gain ni profit de nos labeurs. Chaque jour est pour nous un jour de souffrance, de peine et de fatigue. Chaque jour, on nous prend nos bêtes pour les corvées et les services. Pourquoi nous laisser faire tout ce mal et ne pas sortir de peine? Ne sommes-nous pas des hommes comme eux? N'avons-nous pas la même taille, les mêmes membres, la même force pour souffrir? Lions-nous ensemble par un serment. Jurons de nous soutenir l'un l'autre, et s'ils veulent nous faire la guerre, n'avons-nous pas, pour un chevalier, 30 ou 40 paysans, jeunes, dispos, et prêts à combattre à coups de massue, à coups d'épieu, à coups de flèche, à coups de hache, ou à coups de pierre, sinon pas d'armes? Sachons résister aux chevaliers, et nous serons libres de couper des arbres, de courir le gibier et de pêcher à notre guise, et nous ferons notre volonté sur l'eau, dans les champs et au bois. J'ai cité ces deux passages dans le chapitre 14 de cette histoire, en vous décrivant l'état général de la France sous les Capétiens, avant les croisades. Je les reproduis ici parce qu'ils expriment et peignent vivement la principale cause qui, dès la fin du Xe siècle, détermina tant d'insurrections parmi les populations rurales aussi bien qu'urbaines et amena l'élection de tant de communes. Je dis seulement la principale cause, parce que l'oppression et l'insurrection ne furent pas la seule origine des communes. Le mal moral et matériel abonde dans les sociétés humaines, mais il n'y règne jamais seul. La force n'en bannit jamais absolument la justice, et la violence brutale des forts n'étouffe jamais dans tous les cœurs la sympathie envers les faibles. Deux causes tout autres que l'oppression féodale, les traditions romaines et les sentiments chrétiens, eurent leur part dans la formation des communes et dans ses salutaires résultats. Le régime municipal romain, que j'ai décrit dans mes essais sur l'histoire de France, ne périt point partout avec l'Empire. Il se maintint dans un grand nombre de villes, surtout dans celles de la Gaule méridionale, à Marseille, Arles, Nîmes, Narbonne, Toulouse, etc. À Arles, la municipalité portait même le nom de commune, communitas. Toulouse, à l'exemple du Capitole de Rome, donnait à ses magistrats municipaux le nom de capitoul, et dans la plupart des autres villes du Midi, il s'appelait consul. Après la grande invasion des barbares du 7e à la fin du 11e siècle, l'existence de ces municipalités romaines apparaît rarement et confusément dans l'histoire, mais il n'y a rien là de particulier aux villes et au régime municipal. La confusion et l'obscurité sont universelles à cette époque, et la société féodale naissante y est plongée aussi bien que les petites sociétés municipales languissantes. Beaucoup de municipalités romaines subsistaient sans influer sur aucun événement un peu général et sans laisser aucune trace. Elles se perpétuaient, comme la société féodale se formait, au sein des ténèbres et de l'anarchie universelle. Elles avaient pénétré dans le nord de la Gaule, moins nombreuses et moins fortement organisées que dans le Midi, mais encore debout et tirant vanité de leur origine romaine en présence de leurs conquérants barbares. Les habitants de Reims se souvenaient avec orgueil que leur magistrature municipale et sa juridiction remontaient antérieurement à Clovis, au temps de Saint-Rémy, l'apôtre des Francs. Les bourgeois de Metz vantaient d'avoir usé de droit civil avant qu'il existât un pays de Lorraine. « Lorraine est jeune, disaient-ils, et Metz est ancienne. » La ville de Bourges a été l'un des plus complets exemples des transformations et des dénominations successives d'une municipalité romaine du VIe au XIIIe siècle sous les Mérovingiens, les Carlovingiens et les premiers Capétiens. Au moment de l'invasion, elle avait des arènes, un amphithéâtre, tout ce qui caractérisait la cité romaine. Au VIIe siècle, l'auteur de la vie de Saint Estadiol, né à Bourges, dit qu'elle appartenait à d'illustres parents qui, selon la dignité mondaine, étaient recommandables par la noblesse sénatoriale. Et Grégoire de Tours cite un jugement rendu par les principaux primores de la cité de Bourges. Des monnaies du temps de Charles le Chauve sont frappées au nom de la cité de Bourges et de ses habitants, les Bituris. En 1107, sous Philippe Ier, les membres du corps municipal de Bourges sont nommés prud'hommes. Dans deux chartes, l'une de Louis le Jeune en 1145, l'autre de Philippe Auguste en 1218, les anciens sénatores de Bourges s'appellent tantôt les bons hommes, tantôt les barons de la cité. sous des noms divers, selon les changements de la langue, le régime municipal romain se continue et s'adapte au nouvel état social. De nos jours, on a trop contesté, et Augustin Thierry lui-même a, selon moi, réduit à trop peu de choses le rôle actif et efficace de la royauté dans la formation et la protection des communes françaises. Non seulement les rois, comme nous le verrons tout à l'heure, sont souvent intervenus à titre de médiateurs dans les querelles des communes avec leurs seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, mais plusieurs d'entre eux ont pris, dans leur propre domaine et au profit des communes, une initiative intelligente et salutaire. La ville d'Orléans en a été un heureux exemple. Elle était ancienne et avait prospéré sous l'Empire romain. Cependant, la perpétuité du régime municipal romain n'y apparaît pas clairement, comme nous venons de le voir pour la ville de Bourges. C'est surtout du Moyen-Âge et de ses rois qu'Orléans a tenu ses franchises municipales et ses privilèges. Ils ne l'ont jamais érigée en commune proprement dite, en vertu d'une charte jurée et garantie par des institutions indépendantes, mais ils se sont loyalement appliqués à y prévenir l'oppression locale, à y réformer les abus et à y faire prévaloir la justice. De 1051 à 1281, on trouve, dans le recueil des ordonnances des rois, cette charte considérable relative à Orléans. En 1051, sur la demande du peuple d'Orléans et de son évêque, qui apparaît dans la charte comme le chef du peuple, le défenseur de la cité, Henri Ier assure aux habitants d'Orléans la liberté du travail et de la circulation pendant les vendanges et interdit à ses agents toute exaction à l'entrée des vins. De 1137 à 1178, pendant l'administration de Suger, Louis le Jeune, dans quatre ordonnances successives, donne dans Orléans à la liberté du commerce, à la sûreté des personnes et des propriétés, à la paix intérieure de la ville, des garanties précises. En 1183, Philippe Auguste exempte de toute taille, c'est-à-dire de tout impôt personnel, les habitants présents et futurs d'Orléans, et leur accorde divers privilèges, entre autres celui de ne pas venir plaider plus loin de leur foyer qu'à Étampes. En 1281, Philippe le Hardi renouvelle et confirme les concessions de Philippe Auguste. Orléans n'était pas, dans le domaine royal, la seule ville où les rois de cette époque prissent soin de favoriser les progrès de la population, de la richesse, de la sécurité. Plusieurs autres villes, même des bourgs moins considérables, obtinrent des faveurs pareilles. En 1155, Louis le Jeune, probablement en confirmation d'un acte de son père Louis le Gros, accorda à la petite ville de Loris en Gâtinais une charte très détaillée qui en réglait le régime intérieur, financier, commercial, judiciaire, militaire et assurait à tous ses habitants de bonnes conditions pour la vie civile. Cette charte fut regardée dans le cours du XIIe siècle comme si favorable qu'elle fut réclamée par un grand nombre de villes et de bourgs. On demandait au roi les coutumes de Loris, et dans l'espace de 50 ans, elles furent accordées à 7 villes, quelques-unes assez éloignées de l'Orléanais. Les villes qui les obtenaient ne venaient pas à ce titre des communes, proprement dites, dans le sens spécial et historique de ce mot. Elles n'avaient point de juridiction propre, point de magistrature indépendante. Elles ne se gouvernaient point elles-mêmes. Les officiers du roi, prévôts, baillis ou autres, y exerçaient seuls un réel et décisif pouvoir. Mais les promesses du roi aux habitants, les droits qu'il les autorisait à réclamer de lui, les règles qu'il imposait à ses officiers dans leur gouvernement, n'étaient pas des concessions sans valeur, ni qui demeurassent sans fruit. En suivant dans le cours de notre histoire les villes qui, sans avoir été érigées en communes proprement dites, avaient obtenu des avantages de ce genre, on les voit se développer, grandir en population, en richesse et adhérer de plus en plus à la royauté de qui elles avaient reçu leurs privilèges et qui, tout en faisant imparfaitement observer ses promesses, en les violant même souvent, étaient néanmoins accessibles aux réclamations, réprimaient de temps en temps la mauvaise conduite de ses officiers, renouvelaient au besoin les privilèges, les étendaient même, suivaient en un mot dans son administration les progrès de la civilisation, les conseils de la raison, et s'attachaient ainsi les bourgeois, sans leur reconnaître ces droits positifs et ces garanties d'indépendance administrative qui sont, dans l'édifice social complètement et solidement construit, la base de la liberté politique. Les rois ne furent pas les seuls au Moyen-Âge à écouter les conseils de la raison et à reconnaître dans leur conduite envers leur ville les droits de la justice. Beaucoup d'évêques étaient devenus seigneurs féodaux de la ville épiscopale. L'esprit chrétien éclaira et anima plusieurs d'entre eux, comme l'esprit monarchique éclairait et dirigeait quelquefois les rois. À diverses époques, de l'an 957 à l'an 1076, des luttes violentes s'élevèrent dans la ville de Cambrai, entre les bourgeois et leur évêque, au sujet de l'établissement d'une commune. Plus d'une fois, l'évêque demanda, contre les bourgeois, le secours de l'empereur d'Allemagne. « On en vint aux mains, dit M. Augustin Thierry, dans les places et dans les rues. Les soldats poursuivaient les bourgeois jusque dans les églises et les tuaient ou les mutilaient ou les jetaient en prison. La commune de Cambrai soutint jusqu'au milieu du XIVe siècle cette lutte acharnée. Mais vers la fin du XIe siècle, il y avait parmi les membres du clergé métropolitain, continue M. Augustin Thierry, un nommé Baudry de Sarchainville, né à Nartois, qui avait le titre de chapelain de l'évêché. C'était un homme d'un caractère élevé, d'un esprit sage et réfléchi. Il ne partageait point la version violente que les personnes de son ordre avaient en général contre l'institution des communes. Il voyait dans cette institution une sorte de nécessité sous laquelle, de gré ou de force, il faudrait plier tôt ou tard. Et il croyait qu'il valait mieux se rendre aux vœux des citoyens que de verser le sang pour reculer de quelques jours une révolution inévitable. En 1098, il fut élu évêque de Noyon. Il trouva cette ville dans l'état où il avait vu celle de Cambrai. Les bourgeois étaient en querelle journalière avec le clergé métropolitain. Les registres de l'église contenaient une foule de pièces ayant pour titre « De la paix faite entre nous et les bourgeois de Noyon ». Mais aucune réconciliation n'était durable. La trêve était bientôt rompue, soit par le clergé, soit par les citoyens qui étaient d'autant plus irritables qu'ils avaient moins de garanties pour leur personne et pour leurs biens. Le nouvel évêque pensa que l'établissement d'une commune, jurée par les deux partis rivaux, pourrait devenir entre eux une sorte de pacte d'alliance. Et il entreprit de réaliser cette généreuse idée avant que le mot de commune eût servi à Noyon de cri de ralliement pour une insurrection populaire. De son propre mouvement, il convoqua en assemblée tous les habitants de la ville, clercs, chevaliers, commerçants et gens de métier. Il leur présenta une charte qui constituait le corps des bourgeois en association perpétuelle sous des magistrats appelés jurés, comme ceux de Cambrai. « Quiconque, disait la charte, voudra entrer dans cette commune, ne pourra en être reçu membre par un seul individu, mais en la présence des jurés. La somme d'argent qu'il donnera alors sera employée pour l'utilité de la ville et non au profit particulier de qui que ce soit. Si la commune est violée, tous ceux qui l'auront juré devront marcher pour sa défense et nul ne pourra rester dans sa maison, à moins qu'il ne soit infirme, malade ou tellement pauvre qu'il ait besoin de garder lui-même sa femme et ses enfants malades. Si quelqu'un a blessé ou tué quelqu'un sur le territoire de la commune, les jurés en prendront vengeance. » Les autres articles garantissent aux membres de la commune de Noyon l'entière propriété de leurs biens et le droit de n'être traduit en justice que devant leurs magistrats municipaux. L'évêque jura d'abord cette charte et les habitants de tout état prêtèrent avec lui le même serment. En vertu de son autorité pontificale, il prononça l'anathème et toutes les malédictions de l'Ancien et du Nouveau Testament contre celui qui, dans l'avenir, oserait dissoudre la commune ou enfreindre ses règlements. En outre, pour donner à ce nouveau pacte une garantie plus solide, Baudry invita le roi de France, Louis le Gros, à le corroborer, comme on disait alors, par son approbation et par le grand sceau de la couronne. Le roi consentit à cette requête de l'évêque, et ce fut toute la part qu'eut Louis le Gros à l'établissement de la commune de Noyon. La charte du roi ne s'est pas conservée, mais sous la date de 1108, il en reste une de l'évêque lui-même, qui peut servir de preuve au récit. Baudry, par la grâce de Dieu, évêque de Noyon, à tous ceux qui persévèrent et avancent de plus en plus dans la foi. Très chers frères, nous apprenons par l'exemple et les paroles des saints-pères que toutes les bonnes choses doivent être confiées à l'Écriture, de peur que, par la suite, elles ne soient mises en oubli. Sache donc, tous les chrétiens présents et à venir, que j'ai fait à Noyon une commune, constituée par le conseil et dans une assemblée des clercs, des chevaliers et des bourgeois, que je l'ai confirmé par le serment, l'autorité pontificale et le lien de l'anathème, et que j'ai obtenu du seigneur roi Louis qu'il octroya cette commune et la corrobora du sceau royal. Cet établissement fait par moi, juré par un grand nombre de personnes et octroyé par le roi, que nul ne soit assez hardi pour le détruire ou l'altérer. J'en donne l'avertissement de la part de Dieu et de ma part, et je l'interdis au nom de l'autorité pontificale. Que celui qui transgressera et violera la présente loi subisse l'excommunication. Que celui qui, au contraire, la gardera fidèlement demeure sans fin avec ceux qui habitent dans la maison du Seigneur. Ce bon exemple ne fut pas stérile. Le régime communal s'établit dans plusieurs villes, notamment à Saint-Quentin et à Soissons, sans trouble ni violence, et d'un commun accord entre les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques et les habitants. J'arrive à la troisième et principale origine des communes, à celles qui ont opposé à l'oppression féodale une résistance énergique et qui, à travers les souffrances, les vicissitudes et les violences mutuelles d'une lutte prolongée, ont fini par conquérir une véritable indépendance administrative et, dans une certaine mesure, politique. Le nombre des communes ainsi formées du XIe au XIIIe siècle a été grand, et nous avons l'histoire détaillée des aventures de plusieurs d'entre elles, Cambrai, Beauvais, Laon, Amiens, Reims, Étampes, Vézelay, etc. Pour en donner une juste et vive image, je choisirai la commune de Laon, l'une de celles dont les destinées ont été les plus variées comme les plus tragiques, et qui, après plus de deux siècles d'une existence très orageuse, fut complètement abolie, d'abord par Philippe le Bel, puis par Philippe le Long et Charles le Bel, et enfin, en 1331, par Philippe de Valois, pour certains méfaits et excès notoires, énormes et détestables, et par grande délibération de notre conseil. La première partie de l'histoire de la commune de Laon, de 1106 en 1124, nous a été racontée par Guibert, abbé de Nogent-sous-Coucy, dans le diocèse de Laon, écrivain contemporain, spirituel et hardi. « Dans toutes les choses que j'ai écrites et que j'écris encore, dit-il, je bannis tous les hommes de ma pensée, ne me souciant nullement de plaire à personne. J'ai pris mon parti des opinions du monde, et tranquille ou indifférent pour moi-même, je m'attends à être exposé à toutes sortes de propos comme battu de verge. Je produis mon entreprise bien décidé à supporter avec égalité d'humeur les jugements de tous ceux qui viendront aboyer après moi. » Laon était à la fin du XIe siècle l'une des villes les plus importantes du royaume de France. Elle était peuplée d'habitants industrieux et riches. Les populations environnantes venaient s'y approvisionner ou s'y divertir, et ce concours donnait naissance au plus grand désordre. Les nobles et leurs serviteurs, dit M. Augustin Thierry, exerçaient contre les bourgeois le brigandage à main armée. Les rues de la ville n'étaient point sûres la nuit, ni même le jour, et l'on ne pouvait sortir de chez soi sans courir le risque d'être arrêté, volé ou tué. Les bourgeois, à leur tour, exerçaient des violences sur les paysans qui venaient au marché de la ville, soit pour vendre, soit pour acheter. « Rapportons, pour exemple, dit l'abbé Guibert de Nogent, un seul fait qui, s'il se fût passé chez les barbares ou les scythes, serait certainement réputé ce qu'il y a de plus impie au jugement même de ceux qui ne reconnaissent aucune loi. Le samedi, les habitants des campagnes quittaient leurs champs et venaient de tous côtés à Laon pour s'approvisionner au marché. Les gens de la ville faisaient alors le tour de la place, portant soit dans des corbeilles ou des écuelles, soit de toute autre manière, des échantillons de légumes, de grains ou de toute autre denrée, comme s'ils eussent voulu en vendre. Ils les présentaient aux premiers paysans qui cherchaient de tels objets à acheter. Celui-ci promettait de payer le prix convenu. Alors le vendeur disait à l'acheteur « Suis-moi dans ma maison pour voir et examiner la totalité des denrées que je te vends. » L'autre suivait, puis quand ils étaient arrivés au coffre qui contenait la marchandise, l'intègre vendeur en levait et en soutenait le couvercle, disant à l'acheteur « Avance-toi et mets ta tête ou tes bras dans le coffre pour bien t'assurer que toute cette marchandise ne diffère en rien de l'échantillon que je t'ai montré sur la place. » Lorsque celui-ci, sautant sur le bord du coffre, y demeurait appuyé sur le ventre, ayant la tête et les épaules penchées dedans, le brave vendeur qui se tenait en arrière soulevait le rustre imprudent par les pieds, le poussait à l'improviste dans le coffre et rejetant le couvercle sur lui au moment où il tombait, le tenait enfermé dans cette sûre prison jusqu'à ce qu'il se fût racheté. En 1106, l'évêché de Laon était vacant depuis 2 ans. Il fut recherché et obtenu à force d'argent, disent les contemporains, par Gaudry, normand de naissance, référendaire du roi d'Angleterre Henri Ier, et l'un de ces hommes d'église qui, selon les expressions de M. Augustin Thierry, était allé à la suite de Guillaume le Bâtard chercher fortune chez les Anglais en prenant le bien des vaincus. Il paraît que dès lors la vie de Gaudry était peu édifiante. Il avait, dit-on, des goûts et des mœurs militaires, était emporté, arrogant, et il aimait par-dessus tout parler de combats de chasse, d'armes, de chevaux et de chiens. Comme il se rendait à Rome avec une suite nombreuse pour demander la confirmation de son élection, il rencontra à Langres le pape Pascal II, venu en France pour célébrer la fête de Noël à l'abbaye de Cluny. Le pape avait sans doute entendu parler de la médiocre réputation du nouvel évêque, car le lendemain même de son arrivée, à Langres, il entra en conférence avec les ecclésiastiques qui avaient accompagné Gaudry et les pressa de questions sur son compte. Il nous demanda premièrement, dit Guibert de Nogent, qui était du cortège, pourquoi nous avions choisi un homme qui nous était inconnu. Comme aucun des prêtres, dont certains ne savaient pas même les premiers éléments de la langue latine, ne répondait à cette question, il se tourna vers les abbés. J'étais assis entre mes 2 collègues. Ceux-ci gardant aussi le silence, on commença de droite et de gauche à me presser de parler. J'étais de ceux à qui cette élection avait déplu. Mais par une timidité coupable, j'avais obéi à l'autorité de mes supérieurs en dignité. Intimidé par ma jeunesse, je ne pus qu'à grand-peine et en rougissant me résoudre à ouvrir la bouche. La discussion avait lieu non dans notre langue maternelle, mais dans celle des hommes de lettres. Je m'attachai donc, quoiqu'avec une grande confusion d'esprit et de visage, à parler d'une manière qui convint au goût de celui qui nous interrogeait, enveloppant de formes de langage arrangées avec art et des expressions mitigées, mais qui ne s'éloignaient pas entièrement de la vérité. Je dis que nous ne connaissions pas, il est vrai, pour l'avoir familièrement vu et pratiqué, l'homme dont nous avions fait choix, mais que nous avions reçu des rapports favorables sur son intégrité. Le pape s'efforça de confondre mes arguments par cette citation de l'Évangile. Celui qui a vu rend témoignage. Mais comme il n'élevait pas explicitement l'objection que Gaudry eût été élu par la volonté de la cour, tout subterfuge de chicane sur un tel point devenait inutile. J'y renonçai donc, et je confessai que je ne pourrais rien opposer aux paroles du pontife, ce qui lui plut fort, car il était moins lettré et qu'il n'eût convenu à sa haute dignité. Sentant bien cependant que toutes les phrases que j'avais entassées pour défendre notre élection étaient de peu de poids, je me jetai ensuite sur les nécessités pressantes dans lesquelles se trouvait notre Église et je m'étendis d'autant plus sur ce sujet que la personne élue était moins propre aux fonctions de l'épiscopat. Gaudry était en effet très peu propre au rôle d'évêque et la ville de Laon ne tarda pas à s'en apercevoir. À peine installé, il commit des violences étranges. Il fit crever les yeux à un homme qu'il soupçonnait de connivence avec ses ennemis et toléra le meurtre d'un autre dans l'Église métropolitaine. À l'exemple des riches croisés revenus d'Orient, il avait un esclave noir qu'il employait à exercer ses vengeances. Les bourgeois s'inquiétaient et s'irritaient. Pendant un voyage que l'évêque fit en Angleterre, ils offrirent beaucoup d'argent aux clercs et aux chevaliers qui gouvernaient en son absence s'ils voulaient consentir à reconnaître par un acte authentique à la communauté des habitants le droit de se gouverner par des autorités de son choix. Les clercs et les chevaliers, dit un chroniqueur contemporain, s'accordèrent avec les gens du peuple dans l'espoir de s'enrichir d'une façon prompte et facile. Une commune fut donc instituée et proclamée à Laon sur le modèle de celle de Noyon et investie de pouvoirs efficaces. L'évêque, de retour, fut très irrité et s'abstint quelques jours de rentrer dans la ville. Mais les bourgeois firent avec lui ce qu'ils avaient fait avec ses clercs et les chevaliers. Ils lui offrirent une si grosse somme d'argent que c'en fut assez, dit Guibert de Nogent, pour apaiser la tempête de ses paroles. Il accepta la commune et jura de la respecter. Les bourgeois voulurent avoir une garantie supérieure. Ils envoyèrent à Paris, au roi Louis le Gros, des députés chargés de riches présents. Le roi, séduit, dit le chroniqueur, par cette largesse plébéienne, confirma la commune par son propre serment. et les députés rapportèrent à Laon leur charte scellée du grand sceau de la couronne et augmentée de 2 articles ainsi conçus. Les hommes de la commune de Laon ne pourront être forcés d'aller au procès hors de la ville. Si le roi a procès contre quelqu'un d'entre eux, justice sera faite par la cour épiscopale. Pour ces avantages et d'autres encore, concédés aux susdits habitants par la munificence royale, les hommes de la commune sont convenus qu'outre les anciens droits de cour plénière, d'hoste et de chevauchée, ils donneront au roi 3 gîtes par an s'il vient dans la ville, et s'il n'y vient pas, ils lui paieront en place 20 livres pour chaque gîte. On appelait droit d'hoste et de chevauchée, expédition et équitable, les droits qu'on payait pour l'exemption du service actif en cas de guerre. Pendant 3 ans, la ville de Laon fut satisfaite et tranquille. Les bourgeois étaient heureux de la sécurité dont ils jouissaient et fiers de la liberté qu'ils avaient acquise. Mais en 1112, les chevaliers, les clercs de l'église métropolitaine et l'évêque lui-même avaient dépensé l'argent qu'ils avaient reçu et regrettaient vivement le pouvoir qu'ils avaient perdu. Ils méditèrent de ramener à l'ancien état les serfs émancipés du joug. L'évêque invita le roi Louis le Gros à venir à Laon pour les offices de la Semaine Sainte, comptant sur sa présence pour intimider les bourgeois. Mais les bourgeois, qui craignaient leur ruine, dit Guibert de Nogent, promirent au roi et à ses entours 400 livres ou plus, je ne sais pas bien lequel. De leur côté, l'évêque et les grands pressèrent le monarque de s'entendre avec eux et s'engagèrent à lui compter 700 livres. Le roi Louis était tellement remarquable de sa personne qu'il semblait fait tout exprès pour la majesté du trône. Courageux dans la guerre, ennemi de toute lenteur en affaires et d'un cœur ferme dans l'adversité, bon d'ailleurs en toute autre chose, il se montrait peu louable en ceci seulement, qu'il ouvrait trop facilement son âme et son oreille aux hommes vils et corrompus par l'avarice. Ce vice fut une source féconde de dommages et de blâmes pour lui, ainsi que de malheurs pour beaucoup de gens. La cupidité de ce prince le fit pencher vers ceux qui lui promettaient davantage. Tous ses serments et ceux de l'évêque et des grands furent en conséquence violés. La charte scellée du sceau royal fut annulée, et l'on publia de par le roi et l'évêque l'ordre à tous les magistrats de la commune de cesser leurs fonctions, de remettre le sceau et la bannière de la ville, et de ne plus sonner la cloche du beffroi qui sonnait à l'ouverture et à la clôture de leurs audiences. Mais sur cette proclamation, la rumeur fut si violente dans la ville que le roi, qui avait logé jusque-là dans un hôtel particulier, jugea prudent d'en sortir et d'aller passer la nuit dans le palais épiscopal qui était ceint de fortes murailles. Non content de cette précaution, mais probablement un peu honteux de ce qu'il avait fait, il quitta Laon le lendemain matin, au point du jour, avec toute sa suite, sans attendre la fête de Pâques pour la célébration de laquelle il avait fait le voyage. Tout le jour après son départ, les boutiques des marchands et les maisons des aubergistes restèrent closes. Aucune espèce de denrée ne fut mise en vente. Chacun se tint enfermé chez soi. Mais quand la colère est au fond des âmes, le silence et l'immobilité du premier saisissement sont de courte durée. Le lendemain, le bruit se répandit que l'évêque et les grands s'occupaient à calculer la fortune de tous les citoyens, afin d'exiger que, pour fournir la somme promise au roi, chacun paya, à raison de la destruction de la commune, autant qu'il avait donné pour son établissement. Saisis d'une violente indignation, les bourgeois se réunirent. 40 d'entre eux s'engagèrent par serment, à la vie et à la mort, à tuer l'évêque et tous ceux des grands qui avaient travaillé à la ruine de la commune. L'archidiacre Anselme, homme de bien, d'une famille obscure, et qui désapprouvait fort le parjure de l'évêque, alla cependant l'avertir en grand secret, sans trahir personne, du péril qui le menaçait. Il l'engagea à ne pas sortir de sa maison, surtout à ne pas suivre la procession le jour de Pâques. « Fi donc, répondit l'évêque, moi, je mourrai de la main de pareils gens. » Le lendemain, cependant, il ne parut point à matine et ne mit pas le pied dans l'église, mais à l'heure de la procession, craignant d'être accusé de lâcheté, il sortit à la tête de son clergé, suivi de près par ses domestiques et quelques chevaliers armés sous leurs habits. Comme le cortège défilait, l'un des 40 conjurés, croyant le moment bon pour porter le coup, sortit brusquement de dessous une voûte en criant « Commune ! Commune !» Un murmure sourd courut dans la foule, mais personne ne s'associa au cri ni au mouvement. La cérémonie se termina sans explosion. Le surlendemain, une autre procession solennelle devait avoir lieu à l'église de Saint-Vincent. Un peu rassuré, mais encore un peu inquiet, l'évêque fit venir des domaines de l'évêché une troupe de paysans qu'il chargea de défendre les uns l'église, les autres son palais, et il suivit de nouveau la procession sans que les conjurés osassent l'attaquer. Bien rassuré cette fois, il renvoya les paysans qu'il avait appelés. Le quatrième jour après Pâques, dit Guibert de Nogent, mon blé ayant été pillé par suite du désordre qui régnait dans la ville, je me rendis chez l'évêque et le priai de mettre un terme à cette situation violente. « Que voulez-vous, me dit-il, que ces gens-là puissent faire avec toutes leurs émeutes? Si Jean Mont Noir tirait par le nez le plus redoutable d'entre eux, le pauvre diable n'oserait seulement pas grogner. Ne les ai-je pas contraints de renoncer à ce qu'ils appelaient leur commune pour tout le temps de ma vie ?»« Je me tue, » ajoute Guibert. « Beaucoup de gens l'avertissaient comme moi du danger, » mais il ne daignait croire personne. 3 jours plus tard, tout semblait calmé. L'évêque était occupé avec son archidiacre à discuter les sommes qu'il fallait exiger des bourgeois. Tout à coup, un grand tumulte éclata dans la ville. Une foule de gens se répandirent dans les rues, criant « Commune ! Commune !» Des bandes de bourgeois, armés d'épées, de haches, d'arcs, de cognées, de massues, de lances, se précipitèrent dans le palais épiscopal. À ce bruit, les chevaliers qui avaient promis à l'évêque de venir à son secours s'il lui arrivait d'en avoir besoin, arrivent successivement pour le défendre. 3 d'entre eux sont, l'un après l'autre, ardemment attaqués par les bandes bourgeoises et succombent après une énergique résistance. Le palais épiscopal est incendié. Hors d'état de repousser les assauts du peuple, l'évêque prit l'habit de l'un de ses domestiques, s'enfuit dans le cellier de l'église, s'y renferma et se tapit dans une petite tonne dont un fidèle serviteur boucha l'ouverture. La foule errait partout, cherchant celui sur qui elle voulait satisfaire sa vengeance. Un bandit nommé Todgo, fameux dans ce temps-là par ses rapines, ses attaques et ses meurtres sur les voyageurs, s'était jeté tête baissée dans le parti de la commune. L'évêque qui le connaissait lui avait donné par plaisanterie, à cause de sa mauvaise mine, le sobriquet d'Isengrin. C'était le nom que, dans les fables du temps, on donnait au loup et qui faisait pendant à celui de Maître Renard. Todgo et sa troupe pénétrèrent dans le cellier de l'église. Ils allaient, frappant sur toutes les tonnes. On ne sait sur quel soupçon, Todgo s'arrêta devant celle où s'était blotti l'évêque, et la fit déboucher en criant « Y a-t-il quelqu'un ?»«
C'est un malheureux prisonnier !» répondit l'évêque en tremblant.
« Ha ha !» lui dit le bandit moqueur qu'il reconnut à la voix. « C'est donc vous, messire Isengrin, qui êtes ici caché ?» Et il le tira par les cheveux hors de son tonneau. L'évêque suppliait les conjurés d'épargner sa vie, offrant de jurer sur l'Évangile qu'il abdiquerait l'épiscopat, leur promettant tout ce qu'il possédait d'argent, et disant que, si on voulait, il abandonnerait le pays. On lui répondit en l'insultant et en le frappant. Il fut bientôt assommé. Todgo, voyant briller à son doigt l'anneau épiscopal, lui coupa le doigt pour s'emparer de l'anneau, et le corps, dépouillé de tout vêtement, fut poussé dans un coin où les passants lui jetaient des pierres ou de la boue en accompagnant leurs insultes de raillerie et de malédiction. Le meurtre et l'incendie sont contagieux. Pendant tout le jour de l'insurrection et toute la nuit suivante, des bandes armées errèrent dans les rues de Laon, cherchant partout les parents, les amis, les serviteurs de l'évêque, tous ceux que la colère publique savait ou présumait elle, et exerçant sur leur personne ou leur maison des vengeances atroces ou grossières. Saisis d'effroi, beaucoup d'innocents fuyaient devant l'aveugle colère du peuple. Les uns étaient atteints et frappés pêle-mêle avec les coupables, les autres s'échappaient à travers les vignes plantées entre 2 collines aux environs de la ville. Les progrès de l'incendie, allumés de 2 côtés à la fois, étaient si rapides, dit Guibert de Nogent, et les vents poussaient si fortement les flammes du côté du couvent de Saint-Vincent que les moines craignaient de voir tout ce qu'ils possédaient devenir la proie du feu et toutes les personnes qui s'étaient réfugiées dans ce monastère tremblaient comme si elles avaient vu des épées suspendues sur leur tête. Des insurgés arrêtèrent un jeune homme qui avait été valet de chambre de l'évêque et lui demandèrent si le prélat avait été tué ou non. Mais il n'en savait rien, ni lui non plus. Il les aida à chercher le cadavre. Et quand ils le rencontrèrent, il avait été tellement mutilé qu'on ne pouvait reconnaître aucun de ses traits. « Je me rappelle, dit le jeune homme, que lorsque le prélat vivait, il aimait à parler de faits de guerre, pour lesquels, à son grand dommage, il montra toujours trop de penchant. Il racontait souvent qu'un jour, dans un simulacre de combat,
au moment où, monté sur son coursier, il attaquait par manière de jeu un certain chevalier, celui-ci le frappa de sa pique et le blessa au-dessous du cou, vers la trachée artère. Le corps de Gaudry fut en effet reconnu à ce signe, et l'archidiacre Anselme alla le lendemain, dit Guibert de Nogent, supplier les insurgés de permettre qu'au moins on l'inhumât, ne fût-ce que parce qu'il avait porté le titre et les insignes d'évêque. Ils n'y consentirent qu'avec peine. Il serait impossible de dire de combien de menaces et d'injures furent poursuivis ceux qui prirent soin de ses funérailles, et de quels discours outrageants on combla le mort lui-même. Son cadavre fut jeté dans une fosse qui n'était creusée qu'à demi, et à l'église on ne fit aucune des prières et des cérémonies prescrites pour l'enterrement, je ne dis pas d'un évêque, mais du dernier des chrétiens. Peu de jours après, Raoul, archevêque de Reims, vint à Laon pour purifier l'église. « Le sage et vénérable archevêque, dit Guibert, après avoir, à son arrivée, fait placer plus décemment les restes de quelques-uns des morts, et célébré l'office divin en mémoire de tous, au milieu des larmes et de l'extrême chagrin de leurs parents et de leurs alliés, suspendit le saint sacrifice de la messe pour prononcer un discours sur ces exécrables institutions des communes, où l'on voit contre toute justice et tout droit les serfs se soustraire violemment à la légitime autorité de leur seigneur. Ici éclate la mobilité des sentiments et des jugements humains, choquante même quand elle est naturelle et presque légitime. Le même historien contemporain, qui naguère blâmait hautement le caractère et la conduite de l'évêque de Laon, Guibert de Nogent, s'associe maintenant à la réaction qu'ont suscité les excès et les vengeances populaires, et il s'indigne contre ces exécrables institutions de communes, source de tant de désordres et de crimes. Les bourgeois de Laon eux-mêmes, ayant réfléchi sur le nombre et l'énormité des crimes qu'on avait commis, séchaient de frayeur, dit Guibert, et redoutaient le jugement du roi. Pour se défendre contre les effets de son ressentiment, ils ajoutèrent une plaie nouvelle à leur plaie ancienne en appelant à leur secours Thomas de Marle, fils du seigneur Enguerrand de Coucy. Ce Thomas, dès sa première jeunesse, s'enrichit en pillant les pauvres et les pèlerins, forma plusieurs mariages incestueux, et sa férocité est tellement inouïe dans notre siècle que certaines gens, de ceux-mêmes qui sont réputés cruels, paraissent plus avares du sang de vil troupeau que ne l'est Thomas du sang des hommes. Tel était l'homme que les bourgeois de Laon supplièrent de venir se mettre à leur tête et qu'ils accueillirent avec joie quand il entra dans leur ville. Quant à lui, lorsqu'il eut entendu leur demande, il consulta les siens pour savoir ce qu'il devait faire. Tous lui répondirent que ses forces n'étaient pas assez nombreuses pour défendre une telle cité contre le roi. Thomas engagea alors les bourgeois à sortir et à se réunir dans un champ où il leur ferait connaître son plan. Quand ils furent à près d'un mille de distance de la ville, il leur dit « Laon est la tête du royaume. Il m'est impossible d'empêcher le roi de s'en rendre maître. » « Si vous redoutez ses armes, suivez-moi dans ma terre, vous trouverez en moi un patron et un ami. » Ces paroles les consternèrent à l'excès. Bientôt cependant, les gens du peuple, troublés par le souvenir du crime qu'ils avaient commis et croyant déjà voir le roi menacer leur tête, s'enfuirent en grand nombre à la suite de Thomas. Tudgo lui-même, cet assassin de l'évêque Gaudry, se rendit en toute hâte auprès du seigneur de Marle. Le bruit se répandit bientôt parmi la population des campagnes voisines de Laon, que cette ville était entièrement vide d'habitants. Tous les paysans s'y précipitèrent et s'emparèrent des maisons qu'ils trouvaient sans défenseur. Qui pourrait dire ou se faire croire s'ils tentaient de dire que d'argent, de vêtements et de provisions de tout genre ont découvert dans cette cité? Bientôt des querelles s'élevèrent entre les premiers et les derniers venus sur le partage de leurs rapines. Tout ce que les petites gens avaient pris passa bientôt au pouvoir des puissants. Si deux hommes en rencontraient un troisième tout seul, ils le dépouillaient. L'état de la ville était vraiment misérable. Les bourgeois qui l'avaient quitté avec Thomas de Marle avaient auparavant détruit et brûlé les maisons des clercs et des grands qu'ils haïssaient. Maintenant, les grands, échappés au massacre, enlevaient à leur tour des maisons des fugitifs, toutes les subsistances, tous les meubles et jusqu'aux gonds et aux verrous. Le bruit de tant de désastres, de crimes et de réactions alternatives se répandit rapidement dans tout pays. Thomas de Marle fut mis au ban du royaume et frappé d'excommunication par une assemblée générale de l'église des Gaules, dit Guibert de Nogent, réunie à Beauvais.
Cette sentence est élue chaque dimanche à l'issue de la messe dans toutes les églises métropolitaines et paroissiales. Le sentiment public contre Thomas de Marle devint si fort qu'Enguerrand de Boves, seigneur de Coucy, qui passait, dit Suger, pour être son père, s'unit à ceux qui lui déclarèrent la guerre au nom du roi et de l'Église. Louis le Gros entra lui-même en campagne contre lui. Les hommes d'armes, d'ailleurs en fort petit nombre, dit Guibert de Nogent, secondaient à peine le roi et ne le faisaient pas de cœur. Mais l'infanterie armée à la légère formait un corps considérable. L'archevêque de Reims et les évêques avaient appelé tout le peuple à cette expédition en donnant à tous l'absolution de leurs péchés. Thomas de Marle, bien qu'impotent alors et étendu sur son lit, n'épargnait pas aux assaillants les moqueries ni les outrages. Il se refusa d'abord absolument aux sommations du roi. Louis persista invariablement dans son entreprise, payant de sa personne et conduisant lui-même les fantassins à l'assaut, quand les hommes d'armes n'y venaient pas ou ne s'y portaient que mollement. Il enleva successivement les châteaux de Crécy et de Nogent, domaine Thomas de Marle, et le réduisit enfin à la nécessité de se racheter par une forte rançon, d'indemniser les églises qu'il avait ravagées, de donner des garanties de sa conduite future et de solliciter instamment sa rentrée dans la communion des fidèles. Quant aux gens de Laon, auteurs ou complices du meurtre de l'évêque Gaudry et qui s'étaient réfugiés sous la protection de Thomas de Marle, le roi ne leur accorda point de merci. Il ordonna, dit Suger, qu'ils fussent attachés au gibet et livrés en pâture à la voracité des milans, des corbeaux et vautours. Il y a quelques dissidences entre les deux récits, tous deux contemporains, que nous possédons de cet événement des premières années du XIIe siècle, l'un dans la vie de Louis le Gros par Suger, l'autre dans la vie de Guibert de Nogent par lui-même. On le reconnaîtra aisément en comparant ce que j'en ai dit, d'après Suger, dans le tome premier de cette histoire, et ce que j'en dis ici d'après Guibert de Nogent. Mais ces dissidences n'ont point d'importance historique, car elles ne changent rien aux faits essentiels qui caractérisent l'état social à cette époque et la conduite comme la situation des acteurs. Après sa victoire sur Thomas de Marle et les émigrés de Laon, Louis le Gros vint à Laon avec l'archevêque de Reims. La présence du roi, tout en rendant le pouvoir aux adversaires de la commune, leur inspira sans doute un peu de modération, car il y eut un intervalle de paix durant lequel on ne s'occupa que de cérémonies expiatoires et de la réparation des églises ruinées par l'incendie. L'archevêque célébra une messe solennelle pour le repos des âmes de ceux qui avaient péri durant les troubles, et il prêcha un sermon pour exhorter les serfs à la soumission envers leur seigneur et pour les détourner, sous peine d'anathème, de résister par la force. Les bourgeois de Laon ne tinrent cependant pas toute résistance pour interdite, et les seigneurs avaient sans doute un peu appris à ne pas la braver, car en 1128, 16 ans après le meurtre de l'évêque Gaudry, la crainte d'une nouvelle insurrection populaire détermina son successeur à consentir à l'institution d'une nouvelle commune, dont Louis le Gros ratifia la charte dans une assemblée tenue à Compiègne. Seulement, le nom de commune ne se retrouva pas dans cette charte. Il fut remplacé par celui d'établissement de paix. Les limites territoriales de la commune furent appelées limites de la paix, et pour en désigner les membres, on adopta cette formule « tous ceux qui ont signé cette paix ». Le préambule de cette charte porte « au nom de la sainte et indivisible Trinité, Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous nos féaux présents et à venir que du consentement des barons de notre royaume et des habitants de la cité de Laon, nous avons institué en ladite cité un établissement de paix. Et, après en avoir énuméré les bornes, les formes et les règles, la charte se termine par cet acte d'amnistie. Toutes les anciennes forfaitures et offenses commises avant la ratification du présent traité sont entièrement pardonnées. Si quelque homme banni pour avoir forfait par le passé veut rentrer dans la ville, il y sera reçu et recouvrera la possession de ses biens. Sont néanmoins acceptés du pardon les 13 dont les noms suivent, et 13 personnes sont nommées en effet comme acceptées de l'amnistie et encore bannies. Peut-être, dit M. Augustin Thierry, ces 13 bannis exclus à jamais de leur ville natale au moment où elles devenaient libres, s'étaient-ils signalés entre tous les bourgeois de Laon par leur opposition contre le pouvoir seigneurial? Peut-être avaient-ils souillé par des violences cette opposition patriotique? Peut-être enfin furent-ils pris au hasard pour être seuls chargés du crime de leurs concitoyens?
La seconde hypothèse me paraît la plus probable, que des violences et des cruautés eussent été commises tour à tour par les bourgeois et par leurs adversaires, le fait est certain. Que la charte de 1128 fut vraiment une œuvre de pacification libérale, son contenu et son langage le prouvent. Après de telles luttes, et au moment où elles s'apaisent, quelques-uns des acteurs les plus passionnés portent toujours le poids du passé, et parmi les plus passionnés, quelques-uns sont souvent aussi les plus sincères. Pendant 47 ans après la charte de Louis le Gros, la ville de Laon jouit de la paix intérieure et des libertés communales qu'elle avait ainsi conquises. Mais en 1175, un nouvel évêque, Roger de Rozoy, homme de grande naissance et parent de plusieurs grands seigneurs, ses voisins, entreprit de ne tenir aucun compte du régime libre établi à Laon. Éclairés par l'expérience, les bourgeois de Laon s'adressèrent au roi, Louis le Jeune, et lui offrirent une somme d'argent pour qu'il leur donnât une charte de commune. L'évêque Roger, par lui-même et par ses amis, dit un chroniqueur, chanoine de Laon, supplia le roi d'avoir pitié de son église et d'abolir la commune de ses serfs. Mais le roi, tenant à la promesse d'argent qu'il avait reçue, n'écouta point l'évêque ni ses amis et donna aux bourgeois de Laon, en 1177, une charte qui confirmait leur établissement de paix de 1128. L'évêque Roger ne se tint pas pour battu. Il réclama l'appui des seigneurs ses voisins et engagea la guerre contre les bourgeois de Laon qui, de leur côté, demandèrent et reçurent les secours de plusieurs communes des environs. Dans un accès d'intempérance démocratique, au lieu d'attendre dans leurs murs l'attaque de leurs ennemis, ils se portèrent sans cavalerie à leur rencontre, ravageant sur leur route les terres des seigneurs qu'ils soupçonnaient de mauvais vouloir à leur égard. Mais, en arrivant devant les alliés de l'évêque, toute cette multitude rustique, dit le chanoine chroniqueur, saisie d'effroi au nom seul des chevaliers qu'elle trouva réunis, prit soudain la fuite, et un grand nombre de bourgeois furent massacrés avant d'atteindre leur ville. Louis le Jeune entra alors en campagne pour les secourir. Mais Baudouin, comte de Hainaut, vint au secours de l'évêque de Laon avec 700 chevaliers et plusieurs milliers de fantassins. Le roi Louis, après avoir occupé et tenu quelque temps en séquestre les terres de l'évêque, jugea à propos de faire la paix, plutôt que de continuer une si rude guerre, et sur l'intercession du pape et du comte de Hainaut, il rendit à Roger de Rozoy ses terres et son évêché, à condition de vivre en paix avec la commune. Tant que Louis VII vécut, l'évêque cessa en effet d'attaquer les libertés des bourgeois de Laon, mais à la mort du roi, en 1180, il s'adressa à son successeur Philippe Auguste et lui offrit de lui céder la seigneurie de la Fère-sur-Oise dont il était possesseur, pourvu que Philippe abolit par une charte la commune de Laon. Philippe céda à la tentation et rendit en 1190 une ordonnance portant « Désirant éviter pour notre âme toute espèce de péril, nous cassons entièrement la commune établie en la ville de Laon » comme contraire aux droits et libertés de l'Église métropolitaine de Sainte-Marie, en vue de la justice et pour le résidu du pèlerinage que nous devons faire à Jérusalem. Mais l'année suivante, sur les instances et les offres des bourgeois de Laon, Philippe changea d'avis, et sans rendre à l'évêque la seigneurie de la Fère-sur-Oise, il garantit et confirma à perpétuité l'établissement de paix accordé en 1128 à la ville de Laon, sous cette condition que, chaque année, à la fête de tous les saints, ils paieront à nous et à nos successeurs 200 livres parisis. Pendant un siècle, toute lutte éclatante cessa entre les bourgeois de Laon et leur évêque. Il n'y avait entre eux point de véritable accord ni de bonne intelligence, mais la paix publique n'était pas troublée, et ni les rois de France ni les grands seigneurs voisins n'intervenaient dans leurs affaires. En 1294, des chevaliers et des clercs du chapitre métropolitain de Laon se prirent de querelle avec des bourgeois. On en vint de part et d'autre à des actes de violence qui rallumèrent dans les rues de la ville et jusque dans l'enceinte de l'église épiscopale des luttes sanglantes. L'évêque et son chapitre s'adressèrent au pape Boniface VIII, qui s'adressa au roi Philippe le Bel pour faire mettre fin à ces scandaleux désordres. Philippe le Bel, à son tour, s'adressa au Parlement de Paris qui, après une enquête, priva la ville de Laon de tout droit de commune et de collège, sous quelque nom que ce soit. Le roi ne voulut pas exécuter cet arrêt dans toute sa rigueur. Il accorda aux bourgeois de Laon une charte qui les maintenait provisoirement dans la jouissance de leurs droits politiques, mais sous cette clause destructive, ne seront la dite commune et le dit échevinage en vigueur qu'autant qu'il nous plaira. Pendant près de 30 ans, de Philippe le Bel à Philippe de Valois, les évêques et les bourgeois de Laon furent en litige devant la couronne de France, les uns pour faire maintenir la commune de Laon dans sa condition précaire et sous le bon plaisir du roi, les autres pour lui faire recouvrer son caractère indépendant et durable. Enfin, en 1331, Philippe de Valois, considérant que la commune jadis de Laon, pour certains méfaits et excès notoires, énormes et détestables, avait été ôtée et abattue à toujours par arrêt de la cour de notre très cher seigneur et oncle, le roi Philippe le Bel, confirmée et approuvée par nos très chers seigneurs, les rois Philippe et Charles, dont Dieu les âme, par grande délibération de notre conseil, avons ordonné que jamais commune, corps, collège, échevinage, maire, juré ou autre état ou signe à ceux appartenant ne soit institué ou établi à Laon. Par la même ordonnance, l'administration municipale de Laon fut placée sous la seule autorité du roi et de ses délégués, et pour effacer tout souvenir de l'ancienne indépendance de la commune, une ordonnance postérieure défendit que la tour, dont on avait enlevé les deux grosses cloches communales, fut désormais appelée Tour du Beffroi. L'histoire de la commune de Laon est celle de la plupart des villes qui, dans la France septentrionale et centrale, ont lutté du XIe au XIVe siècle pour se soustraire à l'oppression et aux violences féodales. Cambrai, Beauvais, Amiens, Soissons, Reims, Vézelay, plusieurs autres villes ont déployé à cette époque beaucoup d'énergie et de persévérance pour faire reconnaître par leur seigneur les droits les plus naturels et les plus nécessaires de toute créature et de toute société humaine. Mais dans l'intérieur de leurs murs, les dissensions étaient extrêmes et la vie continuellement orageuse et troublée. Les bourgeois étaient emportés, grossiers, barbares, aussi barbares que les seigneurs contre lesquels ils défendaient leur liberté. Parmi ces maires, ces échevins, ces jurats, ces magistrats de divers degrés et de divers noms institués dans les communes, beaucoup en venaient bientôt à dominer arbitrairement, violemment, dans leur seul intérêt personnel. La population inférieure était dans une disposition habituelle de jalousie et de sédition brutale contre les riches, les chefs d'atelier, les maîtres de la fortune et du travail. Ces violences alternatives, cette anarchie, ces maux et ces périls intérieurs, sans cesse renaissants, appelaient sans cesse l'intervention étrangère. Quand, après s'être soustrait à l'oppression et aux iniquités venues d'en haut, les bourgeois tombaient en proie aux pillages et aux massacres venus d'en bas, ils cherchaient un nouveau protecteur qui les sauvât de ce nouveau mal. De là ces recours fréquents au roi, au grand suzerain dont l'autorité pouvait réprimer les mauvais magistrats communaux ou faire rentrer dans l'ordre la multitude. Et de là bientôt aussi la chute progressive, ou du moins l'extrême affaiblissement de ces libertés communales si péniblement conquises. La France en était à cet âge et dans cet état de civilisation où la sécurité ne s'achète guère qu'au prix de la liberté. C'est un phénomène des temps modernes que l'effort prévoyant et continu pour concilier la sécurité avec la liberté et le développement hardi des forces individuelles avec le maintien régulier de l'ordre public. Cette belle solution du problème social, encore si imparfaite et si chancelante au milieu de nous, était inconnue du Moyen-Âge. La liberté y était si orageuse, si redoutable, que les populations la prenaient bientôt, sinon en dégoût, du moins en terreur, et cherchaient à tout prix un régime politique qui leur donnât quelque sécurité, but essentiel de l'état social. Quand on arrive à la fin du XIIIe et au commencement du XIVe siècle, on voit tomber en décadence ou disparaître tout à fait une foule de communes. Elles cessent de s'appartenir véritablement et de se gouverner elles-mêmes. Quelques-unes, comme Laon, Cambrai, Beauvais, Reims, se défendirent longtemps contre leur déclin et tentèrent plus d'une fois de se relever dans leur indépendance. Mais elles auraient eu besoin de l'appui du roi pour résister efficacement à leur seigneur, laïque ou ecclésiastique, et elles furent hors d'état de résister à la royauté qui avait grandi pendant qu'elles dépérissaient. D'autres, Melun et Soissons par exemple, sentirent de bonne heure leur faiblesse et demandèrent elles-mêmes à la royauté de les délivrer de leur organisation communale et de se charger de leur administration. Aussi est-ce vers cette époque, sous Saint-Louis et Philippe le Bel, qu'apparaissent dans les recueils des actes de la royauté française ces grandes ordonnances qui règlent l'administration de toutes les communes dans les domaines royaux. Jusque-là, les rois avaient traité d'ordinaire avec chaque ville en particulier, comme la plupart étaient presque indépendantes, ou du moins investies de privilèges divers et respectés, ni le roi, ni aucun grand suzerain ne songeait à prescrire des règles générales pour le régime communal, ni à administrer d'une manière uniforme toutes les communes de ses domaines. C'est sous Saint-Louis et Philippe le Bel que commencent les règlements généraux sur cette matière. Les communes françaises étaient des sociétés trop petites et trop faibles pour suffire à se maintenir et à se gouverner elles-mêmes au milieu des perturbations de la grande société chrétienne. Elles étaient trop nombreuses et trop peu éclairées pour s'organiser en une vaste confédération capable de se donner un gouvernement central. Les libertés communales ont été hors d'état de fonder en France une grande société républicaine. C'est à la royauté qu'a appartenu la force et qu'était eu l'honneur de présider pendant 5 siècles à la formation et à la destinée de la nation française. La royauté n'a pas accompli seule cette grande œuvre. En même temps que les communes dépérissaient et que la royauté grandissait, une nouvelle force, un nouvel élément social, le tiers-État, naissait en France, appelé à prendre dans l'histoire de France une bien plus grande place et à exercer sur le sort de la patrie française bien plus de puissance que, dans leur courte et incohérente existence, il n'avait été donné aux communes d'acquérir. Je m'étais quelquefois étonné, en étudiant les monuments de notre histoire du XIe au XIVe siècle, de n'y trouver nulle part ces mots « le tiers-État ». J'ai désiré savoir si les hommes qui de nos jours se sont adonnés sérieusement à la même étude avaient été plus habiles que moi à découvrir ce grand nom dès l'époque où il semble qu'on doit s'attendre à le rencontrer. J'ai soumis ma question à mon savant confrère de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, M. Littré, dont le monde lettré consulte avec respect le dictionnaire étymologique de la langue française, et à un jeune magistrat, M. Picot, à qui l'Académie des sciences morales et politiques a décerné naguère le premier prix pour son grand travail sur la question qu'elle avait proposée quant à l'histoire et l'influence des États généraux en France. D'après M. Littré, qui m'a écrit le 3 octobre 1871, il pense que c'est au XIVe siècle qu'on a commencé à appeler les trois ordres « tres statuts » et que c'est seulement au XVIe siècle qu'on a dit en français « le tiers-État ». D'après M. Picot, qui m'a répondu le 3 octobre 1871, il est constant que les actes contemporains du roi Jean parlent souvent des trois États, mais ne prononcent pas le nom de tiers-État. À la fin du XVe siècle, l'expression « tiers-État » était employée constamment. Mais n'est-elle pas bien plus ancienne? Il y a des mots qui naissent tellement de la nature des choses qu'ils doivent être contemporains des idées qu'ils expriment. Leur apparition dans le langage est inévitable et elle y est à peine remarquée. Le jour où les députés des communes sont entrés dans une assemblée et se sont assis auprès des deux premiers ordres, le nouveau venu s'est appelé par la force de la situation et le rang qu'il occupait le troisième ordre, et comme nos pères disaient le tiers-denier et la tierce journée, ils ont dû dire le tiers-état. L'expression n'est devenue vulgaire qu'à la fin du XVe siècle, mais il est disposé à croire qu'elle existait au milieu du XIVe. Le fait avait donc depuis longtemps devancé le nom. Si le tiers-état avait résidé tout entier dans les communes en lutte contre leurs seigneurs, si le sort de la bourgeoisie de France avait dépendu des libertés communales conquises dans cette lutte, nous verrions à la fin du XIIIe siècle cet élément de la société française faible et en décadence. Il en fut tout autrement. Le tiers-État prit naissance et s'alimenta à des sources fort diverses, pendant que l'une était près de tarir, les autres demeuraient abondantes et fécondes. Indépendamment des communes proprement dites et investies du droit de se gouverner elles-mêmes, beaucoup de villes avaient des privilèges, des franchises efficaces, quoique limitées, et sous l'administration des officiers du roi, elles croissaient en population et en richesse. Ces villes ne participèrent point vers la fin du XIIIe siècle à la décadence des communes belliqueuses et conquérantes. La liberté politique locale y manquait. L'esprit d'indépendance et de résistance n'y prévalait point. On y vit naître un autre esprit, qui a joué un grand rôle dans notre histoire,
cet esprit peu ambitieux, peu entreprenant, timide même, et n'abordant guère la pensée d'une résistance définitive, mais honnête, ami de l'ordre, persévérant, attaché à ses franchises traditionnelles et assez habile à les faire tôt ou tard respecter. C'est surtout dans les villes administrées au nom du roi et par ses prévôts que s'est développé cet esprit qui a été longtemps le caractère dominant de la bourgeoisie française. Il ne faut pas croire que, faute d'une véritable indépendance communale, toute sécurité intérieure manqua à ces villes. La royauté craignait toujours que ses officiers locaux ne se rendissent indépendants. Elle se souvenait de ce qu'étaient devenus au IXe siècle les offices de la couronne, les duchés, les comtés, et de la peine qu'elle avait eue à ressaisir les débris épars de l'ancienne souveraineté impériale. Aussi les rois capétiens intelligents, Louis VI, Philippe Auguste, Saint-Louis, Philippe le Bel, tenaient-ils soigneusement la main sur leurs prévôts, leurs sergents, leurs officiers de tout genre, pour que leur puissance ne s'accrût pas au point de devenir redoutable. À cette époque, d'ailleurs, le Parlement et tout notre système judiciaire commençaient à se former. Beaucoup de questions relatives à l'administration des villes, beaucoup de contestations entre les prévôts et les bourgeois étaient portées devant le Parlement de Paris et jugées là avec plus d'indépendance et d'équité qu'elles ne l'auraient été par tout autre pouvoir. Une certaine mesure d'impartialité est inhérente au pouvoir judiciaire. L'habitude de prononcer selon des textes écrits, d'appliquer des lois à des faits, donne un respect naturel et presque instinctif pour les droits acquis et anciens. Les villes obtenaient souvent, en Parlement, justice contre les officiers du roi et le maintien de leur franchise. Le recueil des ordonnances royales de cette époque abonde un exemple de ce genre. Ces juges, d'ailleurs, ces baillis, ces prévôts, ces sénéchaux, tous ces officiers du roi ou des grands suzerains, tous ces agents du pouvoir central dans l'ordre civil, formèrent bientôt une classe nombreuse et puissante. Or, la plupart d'entre eux étaient des bourgeois, et leur nombre, leur pouvoir, tournait au profit de la bourgeoisie et lui donnait de jour en jour plus d'extension et d'importance. C'est peut-être là, de toutes les origines du tiers-État, celle qui a le plus contribué à lui faire conquérir la prépondérance sociale. Au moment où la bourgeoisie, naguère formée, perdait dans beaucoup de communes une partie de ses libertés locales, à ce moment même, par la main des parlements, des prévôts, des juges et des administrateurs de tout genre, elle saisissait une large part du pouvoir central. C'est par des bourgeois entrés au service du roi et administrant ou jugeant en son nom que l'indépendance et les chartes communales ont été souvent attaquées et abolies. Mais en même temps, ils fortifiaient, ils élevaient la bourgeoisie et lui faisaient acquérir, de jour en jour, plus de richesses et de crédits, d'importance et de pouvoir dans les affaires intérieures et extérieures de l'État. Philippe le Bel, ce prince ambitieux et despote, ne se trompait pas lorsqu'en 1302, 1308, 1314, en convoquant les premiers États généraux de France, il y appelait les députés des bonnes villes. Il ne leur donnait pas encore le nom de tiers-État, mais il savait bien qu'il appelait ainsi à son aide contre Boniface VIII, les Templiers et les Flamands, une classe déjà investie dans le pays d'une grande influence et qui lui prêterait volontiers un concours efficace. Son fils, Philippe le Long, ne se trompait pas lorsqu'en 1317 et en 1321, il convoquait aux États généraux les communautés et bonnes villes du royaume pour statuer sur l'interprétation de la loi salique quant à la succession à la couronne ou pour aviser aux moyens d'établir l'uniformité des monnaies, des poids et des mesures. Il savait bien que l'autorité de la bourgeoisie lui serait d'un grand secours pour accomplir des actes si graves. Et les trois États préludaient à la formation, si pénible et si lente, de la monarchie constitutionnelle lorsque, en 1338, sous Philippe de Valois, il déclarait, présent ledit roi Philippe de Valois qui s'y accorda, que l'on ne pourrait imposer ni lever taille en France si urgente nécessité ou évidente utilité ne le requérait et de l'octroi des gens des États. Pour bien comprendre le tiers-État français et son importance dans notre histoire, il ne suffit pas d'assister à ses origines, il faut entrevoir sa grande destinée et le but auquel il est enfin parvenu.
Je devance donc les siècles et j'indique dès à présent ce que le cours des événements du XIVe au XIXe siècle mettra en pleine lumière. Apprendre l'histoire de France dans son ensemble et à travers toutes ses phases, le tiers-état a été l'élément le plus actif et le plus décisif de la civilisation française. Si on le suit dans ses relations avec le gouvernement général du pays, on le voit d'abord allié pendant 6 siècles à la royauté, luttant sans relâche contre l'aristocratie féodale et faisant prévaloir à sa place un pouvoir central et unique, la monarchie pure, très voisine, quoiqu'avec des réserves souvent répétées, quoiqu'assez vaines, de la monarchie absolue. Mais dès qu'il a remporté cette victoire et accompli cette révolution, le tiers-état en poursuit une nouvelle. Il s'attaque à ce pouvoir unique qu'il a tant contribué à fonder et il entreprend de changer la monarchie pure en monarchie constitutionnelle. Sous quelque aspect qu'on le considère dans ces deux grandes entreprises si diverses, soit qu'on étudie la formation progressive de la société française elle-même ou de celle de son gouvernement, le tiers-état est la plus puissante et la plus persévérante des forces qui ont présidé à notre civilisation. Ce fait est unique dans l'histoire du monde. On reconnaît dans les destinées des principales nations de l'Asie et de l'ancienne Europe presque tous les grands faits qui ont agité la nôtre. On y rencontre le mélange de races diverses, la conquête d'un peuple par un peuple, de profondes inégalités entre les classes, de fréquentes vicissitudes dans les formes du gouvernement et l'étendue du pouvoir public. Nulle part, on ne voit apparaître une classe qui, partant de très bas, faible, méprisée, presque imperceptible à son origine, s'élève par un mouvement continu et un travail sans relâche, se fortifie d'époque en époque, acquiert successivement tout ce qui lui manquait, richesse, lumière, influence, change la nature de la société, la nature du gouvernement, et devient enfin tellement dominante qu'on se puisse hasarder à dire qu'elle est le pays même. Plus d'une fois dans l'histoire du monde, les apparences extérieures de telle ou telle société ont été les mêmes que celles que je rappelle ici, mais ce sont de pures apparences. Dans l'Inde, par exemple, les invasions étrangères, le passage et l'établissement de races diverses sur le même sol se sont fréquemment renouvelés. Qu'en est-il résulté ? La permanence des castes n'en a point été atteinte. La société est restée divisée en classes distinctes et à peu près immobiles. Après l'Inde, prenez la Chine. Là aussi, l'histoire montre des conquêtes analogues à celles de l'Europe par les Germains. Là aussi, plus d'une fois, des vainqueurs barbares se sont établis au milieu d'un peuple de vaincus. Qu'en est-il arrivé ? Les vaincus ont à peu près absorbé les vainqueurs et l'immobilité a été encore le caractère dominant de l'état social. Dans l'Asie occidentale, après les invasions des Turcs, la séparation des vainqueurs et des vaincus est demeurée invincible. Aucune fermentation intérieure de la société, aucun événement de l'histoire n'a pu abolir ce premier effet de la conquête. Dans la Perse, des événements analogues se sont succédés, des races diverses se sont combattues et mêlées. Elles n'ont abouti qu'à une anarchie insurmontable et qui dure depuis des siècles, sans que l'état social du pays change, sans qu'on y entrevoie le développement d'une civilisation. Je laisse là l'Asie. J'aborde l'Europe grecque et romaine. Au premier moment, on croit reconnaître quelque analogie entre le progrès de ces brillantes sociétés et celui de la société française. Mais l'analogie n'est qu'apparente. Là aussi, il n'y a rien qui ressemble à notre tiers-état et à son histoire. Le seul fait qui est paru à de bons esprits un peu semblable à la lutte de la bourgeoisie du Moyen-Âge contre l'aristocratie féodale, c'est la lutte des plébéiens et des patriciens de Rome. On les a quelquefois comparés. Comparaison fausse. La lutte des plébéiens et des patriciens commence dès le berceau de la République romaine. Elle n'est pas, comme il est arrivé chez nous dans le Moyen-Âge, le résultat du développement lent, difficile, incomplet d'une classe longtemps très inférieure en force, en richesse, en crédit, qui peu à peu s'étend, s'élève et finit par engager contre la classe supérieure un véritable combat. Il est reconnu maintenant que la lutte des plébéiens contre les patriciens fut, à Rome, une suite et comme une prolongation de la guerre de conquête. L'effort de l'aristocratie des cités conquises par Rome
pour participer aux droits de l'aristocratie conquérante. Les familles plébéiennes étaient les principales familles des populations vaincues, placées par la défaite dans une situation inférieure. Elles n'en étaient pas moins des familles aristocratiques, naguère puissantes dans leur cité, entourées de clients et capables dès le premier moment de disputer le pouvoir à leurs vainqueurs. Il n'y a rien là qui ressemble à ce travail lent, obscur, douloureux de la bourgeoisie moderne, s'échappant à grand-peine du sein de la servitude ou d'une condition voisine de la servitude et employant des siècles, non à disputer le pouvoir politique, mais à conquérir son existence civile. Plus on y regarde de près, plus on reconnaît que notre tiers-État est un fait nouveau dans l'histoire du monde et qui appartient exclusivement à la civilisation de l'Europe moderne et chrétienne. Non seulement ce fait est nouveau, mais il a pour la France un intérêt tout particulier, car, pour me servir d'une expression dont on abuse de nos jours, c'est un fait éminemment français, essentiellement national. Nulle part la bourgeoisie n'a eu une destinée aussi vaste, aussi féconde que celle qui lui est échue en France. Il y a eu des communes dans toute l'Europe, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, comme en France. Non seulement il y a eu partout des communes, mais les communes de France ne sont pas celles qui, en tant que communes, sous ce nom et au Moyen-Âge, ont joué le plus grand rôle et tenu la plus grande place dans l'histoire. Les communes italiennes ont enfanté des républiques glorieuses. Les communes allemandes sont devenues des villes libres, souveraines, qui ont eu leur histoire particulière et exercé dans l'histoire générale de l'Allemagne beaucoup d'influence. Les communes d'Angleterre se sont alliées à une portion de l'aristocratie féodale anglaise, ont formé avec elle la chambre prépondérante du gouvernement britannique et ont ainsi joué de bonne heure un rôle puissant dans l'histoire de leur pays. Il s'en faut bien que les communes françaises sous ce nom et dans leur temps d'activité particulière se soient élevées à cette importance politique et à ce rang historique. Et pourtant, c'est en France que la population des communes, la bourgeoisie, s'est développée le plus complètement, le plus puissamment, et a fini par acquérir dans la société générale la prépondérance la plus décidée. Il y a eu des communes dans toute l'Europe, il n'y a eu vraiment de tiers-État victorieux qu'en France. C'est à la Révolution française de 1789, la plus grande à coup sûr, que le tiers-État français est venu aboutir. Et la France est le seul pays où, dans un accès d'orgueil bourgeois, un homme d'un grand esprit ait pu dire « Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout !» Depuis l'explosion et à travers toutes les vicissitudes libérales ou illibérales de la Révolution de 1789, c'est un lieu commun sans cesse répété qu'il n'y a plus de classe dans la société française, mais seulement une nation de 37 millions de personnes. Si l'on veut dire par là qu'il n'y a maintenant en France plus de privilèges, c'est-à-dire point de loi spéciale ni de droit particulier pour telle ou telle famille, telle ou telle propriété, tel ou tel travaux, et que la législation est la même et la circulation parfaitement libre pour tous, sur tous les degrés de l'échelle sociale, on dit vrai. L'unité des lois et la similitude des droits est maintenant le fait essentiel et caractéristique de la société civile en France. Fait immense, excellent et nouveau dans l'histoire des sociétés humaines. Mais sous l'empire de ce fait, au sein de cette unité nationale et de cette égalité civile, existent évidemment et nécessairement des diversités et des inégalités nombreuses, considérables, que l'unité des lois et la similitude des droits ne préviennent et ne détruisent point. Dans la propriété foncière ou mobilière, terre ou capitale, il y a des riches et des pauvres. Il y a la grande, la moyenne et la petite propriété. Que les grands propriétaires soient moins nombreux et moins riches, que les moyens et les petits propriétaires soient plus nombreux et plus puissants qu'ils n'étaient autrefois, cela n'empêche pas que la différence ne soit réelle et assez grande pour créer dans l'ordre civil des situations sociales profondément diverses et inégales. Dans les professions qu'on appelle libérales et qui vivent d'intelligence et de science, parmi les avocats, les médecins, les savants et les lettrés de toutes sortes, quelques-uns s'élèvent au premier rang, attirent à eux les affaires et les succès, acquièrent le renom, la richesse, l'influence. D'autres suffisent laborieusement aux nécessités de leur famille et aux convenances de leur position.
D'autres végètent obscurément dans un malaise presque oisif. Dans les autres professions, là où le travail est surtout matériel et manuel, là aussi il y a naturellement des situations diverses et inégales. Les uns par l'intelligence et la bonne conduite se créent un capital et entrent dans les voies de l'aisance et du progrès. Les autres, ou bornés, ou paresseux, ou déréglés, restent dans la condition étroite et précaire des existences fondées uniquement sur le salaire. Dans toute l'étendue de notre société civile, au sein du travail comme au sein de la propriété, la diversité et l'inégalité des situations se produisent ou se maintiennent et coexistent avec l'unité des lois et la similitude des droits. Qu'on examine toutes les sociétés humaines de tous les lieux et de tous les temps, quelle que soit la diversité de leur origine, de leur organisation, de leur gouvernement, de leur étendue, de leur durée, on trouvera dans toutes trois types de situations sociales, toujours les mêmes au fond, quoique sous des formes diverses et diversement distribuées. Premièrement, des hommes vivant du revenu de leur propriété, foncière ou mobilière, terres ou capitaux, sans chercher à les accroître par leur propre et assidu travail. Deuxièmement, des hommes appliqués à exploiter et à accroître par leur propre et assidu travail les propriétés foncières ou mobilières, terres ou capitaux qu'ils possèdent. Troisièmement, des hommes vivant de leur travail quotidien, sans terres ni capitaux qui leur donnent un revenu. Et ces diversités, ces inégalités dans la situation sociale des hommes ne sont point des faits accidentels, violents ni spéciaux à tel ou tel temps, à tel ou tel pays. Ce sont des faits universels qui se produisent spontanément dans toute société humaine, en vertu des lois primitives et générales de la nature humaine, au milieu des événements et sous l'empire des régimes sociaux les plus différents. Ces faits subsistent de nos jours et parmi nous, comme jadis et ailleurs. Qu'on les appelle ou qu'on ne les appelle pas des classes, la nouvelle société française contient et ne cessera pas de contenir des situations sociales profondément diverses et inégales. Ce qui fait son bonheur et sa gloire, c'est que le privilège et l'immobilité ne s'attachent plus à cette diversité des conditions. C'est qu'il n'y a, parmi nous, plus de droits et d'avantages spéciaux légalement attribués aux uns et inaccessibles aux autres. C'est que toutes les voies sont libres et ouvertes à tous pour monter à tout. C'est que le mérite personnel et le travail ont, dans le sort des hommes, une part infiniment plus grande qu'il ne leur en était accordé jadis. Le tiers-état de l'ancien régime n'existe plus. Il a disparu dans sa victoire sur le privilège et le pouvoir absolu. Il a pour héritier les classes moyennes, comme on les appelle aujourd'hui, mais ces classes, en héritant des conquêtes de l'ancien tiers-état, les possèdent à des conditions nouvelles aussi et légitimes autant qu'impérieuses. Pour garantir leur intérêt propre, comme pour satisfaire à leurs devoirs publics, elles sont tenues d'être en même temps conservatrices et libérales. Il faut que, d'une part, elles attirent et rallient sous leur drapeau les anciennes supériorités sociales jadis privilégiées et qui ont survécu à la chute de l'ancien régime, et que d'autre part, elles acceptent pleinement le mouvement ascendant continu qui fermente dans tout le corps de la nation. Que dans ses rapports avec les classes aristocratiques, le tiers-état de l'ancien régime fût et soit resté longtemps inquiet, ombrageux, jaloux, envieux même, rien de plus naturel. Il avait ses droits à réclamer, ses conquêtes à faire. Aujourd'hui, les conquêtes sont faites, les droits sont reconnus, proclamés, exercés. Les classes moyennes n'ont plus aucun motif légitime d'inquiétude ou d'envie. Elles peuvent se confier pleinement dans leur dignité et dans leur force. Elles ont subi toutes les épreuves et fait toutes les preuves nécessaires. Envers les classes populaires et la démocratie proprement dite, la situation des classes moyennes n'en est pas moins bonne. Aucune barrière déterminée ne les en sépare. Qui dira où commencent les classes moyennes et où elles finissent? C'est au nom des principes de droit commun et de liberté générale qu'elles se sont formées. C'est par l'action des mêmes principes qu'elles se recrutent et puisent incessamment de nouvelles forces aux sources d'où elles sont sorties. Maintenir le droit commun et le libre mouvement ascendant, d'une part contre les velléités rétrogrades du privilège et du pouvoir absolu, de l'autre contre les folles et destructives prétentions du nivellement et de l'anarchie, c'est là maintenant la double mission des classes moyennes. Et c'est en même temps, pour elles, le moyen assuré de conserver la prépondérance dans l'État,
au nom des intérêts généraux dont ces classes sont les plus vrais et les plus efficaces représentants. Parvenus dans notre histoire à l'époque où Philippe le Bel, en faisant entrer les bourgeois des bonnes villes dans les états généraux du royaume, a substitué le tiers-état aux communes et l'action unie des trois grandes classes de Français à leur lutte locale, je n'ai pas hésité à m'arrêter un moment pour bien caractériser la situation et le rôle du nouvel acteur dans le grand drame de la vie nationale. Je rentre maintenant dans les scènes mêmes du drame, c'est-à-dire dans l'histoire de France devenue, au XIVe siècle, plus complexe, plus tragique et plus grande qu'elle ne l'avait encore été.